French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous présenter, ou représenter pour certains, une Française expatriée, maman et entrepreneur. Elle est passionnée de cuisine française depuis qu'elle a 5 ans, mais ni ses études ni sa carrière ne l'a prédestinée à se lancer dans l'aventure de My French Recipe, ma recette française. Dans la bonne tradition française, lors de son arrivée à Dallas, au Texas, il y a 2 ans, Isabelle et son mari organisent une pendaison de crémaillère dans leur nouvelle maison avec des collègues de son mari. Isabelle décide de faire quelques spécialités qu'elle maîtrise plutôt bien, parmi lesquels de bons macarons. Et là, bam ! Le choc, les invités n'ont jamais vu des macarons faits maison et tombent complètement à la renverse à l'idée qu'un humain non professionnel soit capable de sortir ça de sa cuisine. Le début d'une grande aventure. Dans cet épisode, Isabelle nous raconte sans complexe comment elle gère avec brio sa vie, ou plutôt toutes ses vies de front. Elle nous raconte comment elle a monté une boîte alors qu'elle ne maîtrisait pas vraiment l'anglais, et qu'elle n'avait pas vraiment d'expérience dans l'entrepreneuriat. Elle nous parle aussi de choc culturel dans une ville au milieu du Texas dans laquelle elle n'aurait jamais imaginé vivre et encore moins se plaire. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Isabelle Motta. Alors bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast.
Salut Anne Fleur, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Alors Isabelle, tu es basée au Texas ?
Tout à fait, ouais, près de Dallas.
Alors tu es aux États-Unis depuis combien de temps ?
Ça fait 2 ans et demi. On est parti de Paris vers Dallas, ouais, il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Ça passe très vite.
C'est ta première expatriation ?
C'est ma première vraie expatriation. Après, pendant mes études, j'ai un peu baroudé, donc j'ai fait 6 mois à Barcelone, tu vois, un peu mode l'auberge espagnole. J'ai passé quelques mois au Portugal aussi. Enfin voilà, donc j'ai déjà un peu bougé, mais c'est ma première vraie expatriation dans le cadre professionnel et pas juste un stage ou un stage de fin d'études.
Quoi. Ouais, de plus de plusieurs mois quoi.
Ouais, c'est ça, plus de 6 mois.
Donc du coup, tu avais déjà un petit peu goûté quand même au fait de vivre à l'étranger. J'imagine que c'est aussi ça peut-être qui t'a donné l'envie d'aller voir ailleurs à nouveau.
J'ai toujours eu envie d'aller voir ailleurs. ça a toujours été clair pour moi que j'adore voyager, j'ai toujours eu envie de partir. J'ai toujours eu envie de vivre à l'étranger sans avoir de plan précis, en fait. C'est plus l'occasion qui a fait que là, on pouvait partir. Mais j'ai toujours, voilà, pendant mes études, j'ai tout fait pour pouvoir partir à l'étranger, même complètement à l'arrache, pour être très honnête. À la fin de mes études, dès que j'avais des vacances, je partais à l'étranger, explorer des trucs un peu, partir en mode sac à dos et c'est parti, quoi. Donc j'avais toujours eu envie de ça, et clairement, même si le Texas n'était pas vraiment ma première destination en termes de choix, parce que pour des raisons que j'ai peut-être même pas besoin d'expliquer, ça fait pas rêver en soi le Texas, j'étais quand même hyper contente de partir au final, quoi. C'est-à-dire que au début, le Texas c'était no way, et puis après tu dis c'est quand même l'étranger, c'est quand même les États-Unis, peut-être que arrêter les a priori sur le Texas et puis se dire ça peut être bien. Puis j'avais des échos de mon mari aussi qui allait régulièrement, donc du coup je savais que c'était pas vraiment c'était pas les cow-boys, quoi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est hyper cosmopolite, et donc je savais que j'allais m'y plaire, et puis il fait toujours beau quasiment, donc je savais que il y avait de fortes chances que je m'y plaise. Donc ouais, j'ai toujours eu envie de partir. Dans tous les cas,
ça remplissait pas mal de critères.
Ouais, partir ça c'était, enfin en fait, partir, c'est le critère number one, quoi.
D'accord.
Voir ce qui se passe.
Et alors, quel a été l'élément déclencheur, finalement, de ce départ, cette fois-ci?
On était à Paris. On avait déjà notre première fille. Et on voulait partir de Paris. Parce que c'est trop cher, parce que vie de famille, à trois dans un appart parisien, plus le chat. Donc, c'était un peu serré, quoi. Alors, on n'avait pas envie de vivre en banlieue, parce qu'en même temps, vivre en banlieue, ça ne convenait pas à notre style de vie. Du coup, on se disait, la province, qu'est-ce qu'on trouve? C'est compliqué de trouver un truc qui était cool pour nous deux en province. Du coup, le hasard a fait que cette opportunité s'est créée. Donc, mon mari, il bosse dans une boîte dont le siège est entre Paris et Dallas. Du coup, il allait régulièrement sur Dallas, et à un moment, en fait, ses boss lui ont dit, écoute, si t'es chaud, viens quelques années ici, quoi. Donc, comme on cherchait à partir de Paris, ça se goupillait assez bien, même si, encore une fois, quand il a évoqué le sujet, c'est là, mais même pas en rêve, quoi. Tu vois, genre Dallas, mais je me rappelle très bien, la première fois qu'il a évoqué le sujet, j'ai regardé, mais t'es pas sérieux, quoi. Et puis nous voilà 2 ans et demi plus tard, et on fait tout pour pas rentrer.
Voilà. Ah oui, d'accord, à ce moment-là.
Ouais.
Si on reprend juste un tout petit peu en arrière, elle ressemblait à quoi concrètement ta vie, du coup, à Paris avant de partir, pour qu'on ait une idée un peu de dans quoi tu t'es embarquée dans cette aventure?
Maman d'une petite fille, j'étais déjà en freelance. J'avais une boîte depuis 5 ans. Je faisais du marketing principalement alimentaire et à 90% digital. Donc, je bossais pour des boîtes qui voulaient développer soit des projets réseaux sociaux ou des projets blogueurs. Je faisais ça depuis 5 ans. J'ai été salariée quelques années, mais c'était pas du tout pour moi. Ça correspond pas à ma personnalité déjà, j'aime bien être peinard et faire ce que je veux quand je veux. Et puis bosser de manière, c'est-à-dire à ma manière, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et après la naissance de ma première fille, donc c'était un peu chaud, on va dire, en termes d'organisation. Et c'est à ce moment-là, du coup, il y a cette opportunité où j'ai dit, très bien, c'est fin de cycle, on va repartir sur un nouveau cycle. On clôt cette histoire, on clôt ce chapitre et on va débuter autre chose, complètement neuf au Texas. Voilà, c'est ça le contexte.
Et donc, alors, ça y est, vous décidez de partir, vous arrivez. Alors, qu'est-ce que ça a été ton expérience en arrivant à Dallas? Donc, t'étais un peu pleine de préjugés quand même, même si t'essayais de les combattre. Moi, la première, quand tu me dis Dallas, je pense à la série. Alors, raconte un petit peu, ça ressemble à quoi Dallas et ça ressemble à quoi? Est-ce que t'es passé toi-même par un choc culturel? Je pense qu'on passe tous un petit peu par cette case-là. Comment ça s'est passé de ton côté?
Le choc culturel, il a été à plein de niveaux. Tu vois, ça a été positif et négatif. Négatif parce que le choc culturel, t'arrives aux États-Unis, au-delà du Texas, aux États-Unis, t'as quand même des choses où des fois tu te dis c'est La nourriture notamment, qui est un point qui est hyper important pour moi, parce que je vis que nourriture, tu vois. La nourriture, clairement, qui dit « bon, ça va pas ». Ça va pas du tout, à part si tu vas faire tes courses chez Whole Foods ou dans des magasins très spécialisés, c'est quand même compliqué de trouver des trucs…
Et très cher.
Ouais, voilà, et très cher, bien sûr. C'est compliqué de trouver des trucs qui soient pas hyper sucrés, hyper gras, hyper industrialisés. Voilà, ça, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a un vrai problème sur la nourriture. Donc ça, c'est clairement un des a priori que j'avais et qui s'est avéré 100% vrai. Mm-hmm. À côté de ça, il y a aussi des trucs hyper positifs et notamment l'hospitalité du sud des États-Unis, donc la Southern Hospitality, l'hospitalité des États-Unis en général et du Texas. Déjà, t'arrives, les gens sont hyper sympas. Alors, quand tu vis à Paris, le cliché parisien, malheureusement, je suis désolée, il est vrai aussi, hein, voilà. Donc, c'est hyper bizarre. Je me rappelle la première fois qu'on est allé faire les courses, justement, au Whole Foods, parce que c'était un peu le truc où on avait à peu près des repères. Et on faisait des courses et on se parlait avec Nico. Et il y a quelqu'un qui vient nous voir et fait « Ah, mais quelle langue vous parlez? C'est super beau !» Mais là, on parle français. Mais les gens, tu sais, commencent à nous parler. Vous êtes français, c'est super. Gna, 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 gna. On dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous piquer des trucs, il veut nous vendre un truc. Mais à fond, mais à Paris, tu te fais accoster comme ça. Mais c'est sûr quand quelqu'un est en train de te faire les poches, tu vois. C'est clair. Enfin, je veux dire, c'est très rare. J'adore Paris, hein, mais c'est quand même très rare qu'on t'aborde juste pour être sympa, tu vois. Là, les gens t'arrêtent dans les magasins, disent, oh, j'adore votre manteau. Et ouais, ok. Honnêtement, je savais pas quoi dire au début. J'étais hyper, je comprenais pas.
Ça, c'est clair.
Je comprenais pas pourquoi les gens étaient gentils. Et puis après, au bout d'un moment, enfin, les gens sont juste hyper, hyper chaleureux, hyper accueillants. Tu vas au supermarché, salut, vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut. Ah bah oui, c'est super. Ah, j'adore ce produit, c'est génial. Voilà. Alors certains pourront penser que c'est un peu too much, que c'est un peu faux. Certes. Ok, mais moi je préfère que ce soit faux, mais que ce soit dans l'apparence hyper chaleureux que d'arriver dans un magasin en France et t'as l'impression de les faire chier quand tu rentres dans le magasin parce que tu veux acheter un truc, tu vois. Voilà, donc je préfère ce côté-là. Donc voilà, côté hyper positif des États-Unis, notamment, c'est ça.
D'accord. Et alors, donc toi, tu es arrivé, si on fait juste une petite parenthèse sur l'immigration. Donc, tu es arrivé en tant que spouse sur le visa de ton mari, c'est ça?
Ouais.
C'était quoi comme visa?
On a un visa E2. C'est celui qui s'est rétrogradé il n'y a pas très longtemps.
Ah ouais. Ok, donc c'est le visa investisseur, c'est ça?
Ouais, exactement.
D'accord. Et donc toi, en tant que spouse, donc tu as pu, tu candidates pour une autorisation de travail, c'est bien ça?
Ouais, exactement. En fait, la condition pour que j'accepte qu'on parte, c'est que je pouvais faire ce que je voulais, c'est-à-dire soit trouver un job, soit entreprendre, bosser pour les États-Unis, bosser pour la France, peu importe. Mais voilà, c'est la condition. Moi, je veux bien partir, mais par contre, je ne veux pas partir en tant que j'ai pas le droit de bosser, quoi. Donc voilà, j'ai candidaté pour le permis de travail. J'ai eu au bout de 3 mois, ce qui a permis de me laisser un peu de temps pour me poser, comprendre comment ça marchait ici, trouver une maison, une crèche, trouver des repères, en fait, tout simplement, quoi. Donc c'était un temps qui était bien, quoi.
Ta condition sine qua non pour venir, c'était de pouvoir avoir ton autorisation de travail, quoi, de pouvoir être libre de faire ce que tu voulais, en fait, une fois que tu es arrivé aux États-Unis.
Exactement.
T'as pu profiter donc de cette parenthèse de quelques mois qui t'a été imposée, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, tu peux pas candidater à cette autorisation. Tu ne peux le faire qu'une fois que tu es sur le territoire américain.
Exactement.
C'est pas ça.
Exactement. Et il y a un temps incompressible de minimum 3 mois. Je crois qu'aujourd'hui c'est 6 mois. Mais c'est à l'époque c'était 3 mois minimum où en gros tu n'as pas le droit de travailler sur le sol américain.
Bon, alors repartons. Donc tu lances ta procédure pour obtenir ton autorisation de travail. Qu'est-ce que tu fais donc de ces... Ça t'a pris combien de temps? 3-4 mois?
Ouais, 3 mois. Ouais, à peu près. Okay.
Donc, t'en profites pour, j'imagine, vous installer, prendre tes marques dans une nouvelle ville. T'étais déjà allée aux États-Unis avant d'arriver à Dallas?
Alors, j'avais fait une fois New York 4-5 jours, donc, qui n'a rien à voir avec le reste des États-Unis, mais encore moins avec Dallas. J'avais fait un séjour de 15 jours à Dallas avant de venir pour être sûre que je n'allais pas péter un câble en arrivant ici. Donc, voilà. Donc, ça allait, quoi. J'étais pas hyper surprise de ce que je trouvais ici.
Ouais, d'accord. Tu avais quand même une petite idée de dans quoi tu t'es embarquée.
Ouais.
Et alors, comment se sont passés ces premiers mois? Et alors, j'aimerais bien que tu me parles notamment de mémoire. Tu as organisé une crémaillère à laquelle les collègues de ton mari sont venus faire un tour, c'est bien ça?
Ouais, comment tu sais ça? ouais, alors en gros, donc on est ici depuis quelques mois. Je gère un peu le back-office de la maison, donc la nourriture, etc. Et on fait une petite crémaillère avec beaucoup des collègues de mon mari, puisque moi je connaissais personne, hein, j'avais pas beaucoup de potes. Et puis c'est là que le début de l'aventure My French Recipe ont commencé, on va dire, avec les macarons que j'ai commencé à maîtriser, et du coup j'avais proposé à ce moment-là. Voilà.
Donc c'était pas des macarons qui venaient de Trader Joe's, c'est des macarons que tu avais fait toi-même.
Je sais même pas le goût qu'ils ont, les macarons de Trader Joe ou de Costco. Je veux même pas savoir d'ailleurs.
Et donc en fait ton public américain, si je puis dire, était complètement scotché de savoir qu'un humain
un être humain
peut sortir ça de sa cuisine, quoi, c'est ça?
C'est ça, une femme qui soit pas Julia Child ou comment ça s'appelle le chef français qui cuisine toujours avec le vin, Pierre Pépin, non. Qui est hyper connu aux États-Unis, voilà. C'est genre quelqu'un de normal qui fait des macarons, c'est assez waouh, quoi.
Et alors, donc, du coup, toi, avant de partir aux États-Unis, tu faisais beaucoup de cuisine ou c'est une passion que tu t'es découverte? Je sais que tu travaillais dans le domaine de l'alimentaire, mais ton investissement avec les mains, je dirais, dans la farine, c'était comment?
En fait, j'ai toujours cuisiné. Enfin, je n'ai pas toujours cuisiné, mais depuis très longtemps, je cuisine. Je suis tombée dedans assez petite, où je me rappelle, je entraînant dans la cuisine chez mes parents, j'avais déjà trouvé des vieux livres. À l'époque, ils étaient déjà vieux, donc aujourd'hui, je ne te raconte pas. Des recettes hyper tradies de crêpes, de Paris-Brest. Et donc, quand j'avais genre 10-12 ans, voilà, je patouillais avec ces trucs-là. Je faisais des trucs plus ou moins, résultats aléatoires, mais je patouillais, j'aimais déjà ça. Beaucoup plus tard, après mes études, j'ai lancé un blog en France qui s'appelle Feuille de Chou, feuillechou.fr, Feuille de Chou pour montrer vraiment que c'est un truc qui se prend pas trop au sérieux, qui fait de la cuisine hyper simple, quotidienne, parce que c'est ce que j'aime faire. Et donc, il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans, où je publie déjà des recettes régulièrement de cuisine, de trucs que je fais tous les jours ou le dimanche ou des trucs avec les enfants, enfin peu importe. Donc j'avais déjà cet attrait pour la cuisine depuis hyper longtemps. Je suis pas diplômée, j'ai pas de formation, j'aime juste bien manger. Du coup, en fait, quand j'aime bien un truc, j'ai envie de le faire. C'est hyper simple. J'aime bien, je vais le faire. C'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans la nourriture.
Du coup, en fait, donc cette fameuse crémaillère et ces retours que tu as eu des locaux, quoi, des Américains, en juxtaposition avec ta passion, ça a été un peu le déclic pour te lancer dans une aventure. Tu peux nous raconter un petit peu d'où t'es parti et où t'en es aujourd'hui?
Donc, moi, j'adore la cuisine française, déjà de base. La cuisine, on va dire, authentique, conviviale, française, voilà, c'est vraiment mon truc. Et du coup, en arrivant ici, donc, je me mets un peu, je perfectionne un peu mes macarons, je perfectionne, je sais pas, 2-3 trucs. Je teste aussi les trucs, les restaurants ou les adresses plus ou moins françaises que je trouve dans le coin. Par exemple, la Madeleine, je sais pas si vous en avez par chez vous, qui est un équivalent de... C'est un Starbucks, si tu veux, mais version française old school, ou même en plein mois d'août, alors qu'il fait 45 degrés dehors, t'as le feu de cheminée qui est allumé avec la clim
En plein milieu du Texas, ça peut être intéressant.
C'est un délire. Bon, après, ça répond à une demande de produits français ou traditionnels. Et je trouve beaucoup de ce genre de trucs, en fait, cuisine un peu tradie, française, qui est bien, il n'y a rien à dire, mais je me dis, merde, mais elle est où la cuisine, la cuisine française que je connais de maintenant en France, en fait, des trucs hyper simples, de tous les jours. Ouais, ça, tu trouves En fait, français pour cuisine française pour les Américains, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, veut dire hyper fancy, super chic et super cher. Et ben ça me gêne en fait. Donc moi, voilà, au début, je me rends compte de ça, je dis ah, pff, j'aime bien hein, les trucs hyper fancy aussi, mais je me dis mais c'est pas la, enfin la cuisine française, c'est pas ce que ça représente en vrai quoi. C'est-à-dire qu'en France, tu vas dans n'importe quel bistrot à Paris. Tu manges quand même pour aller 15 €, tu vas manger un truc bon, normalement plutôt frais, surtout si tu compares à ce que tu vas trouver au même prix aux États-Unis. C'est pour moi c'est ça la cuisine française. Et je dis ouais, je trouve qu'il y a un problème dans ce qu'on propose dans l'offre de cuisine française. Je dis mince, je comprends pas. Donc ça c'est la problématique que je vois et je me dis bah tiens, je tenterais bien de vu que bah, je peux pas travailler, j'ai besoin de perfectionner mon anglais parce que je suis un peu à l'arrache, même si je parle, c'est quand même pas la même chose quand tu parles en anglais avec des Français ou quand tu parles en anglais avec des Américains. Je dis bon ok, j'ai vraiment besoin de me perfectionner, qu'est-ce que je peux faire? Bon bah je vais lancer un meet-up et proposer un cours de macarons chez moi. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait et cours de macaron payant, donc vraiment en plus avec le recul je me dis mais n'importe quoi. La fille, je n'ai jamais donné de cours de ma vie, je connais personne aux États-Unis, je parle un anglais qui est quand même approximatif, il faut le dire. La fille, elle va lancer un meet-up, elle fait payer son cours de cuisine puis au vrai prix quoi, tu vois, pas en mode on va voir. J'ai quand même 3 personnes qui s'inscrivent. Je dis bah bon, ok, bah bonne surprise. Donc déjà je me dis c'est qu'il y a une demande. Je fais le cours qui est plutôt sympa. Je découvre un peu aussi comment ça fonctionne avec les Américains, tout ça. Donc voilà, très sympa. Et bah je continue un peu comme ça. J'en fais de temps en temps. Et je me rends compte, je dis ah ouais non, j'ai quand même des gens qui payent pour venir chez moi, c'est même pas une vraie école quoi.
C'est encore mieux, c'est une cuisine française.
Ouais, mais tu te rends bien compte que t'es pas dans une cuisine, tu sais, surtout pour les Américains, ils aiment bien quand même d'avoir des trucs un peu qui pètent quoi, voilà, professionnels et tout. Et moi j'ai pas du tout ça, j'ai des outils de chez Walmart si tu veux, en plus surtout à l'époque, donc c'est pas. Mais les gens sont contents, ils me disent ah c'était super machin. Je dis ok bon, je pense que si on perfectionne le truc ça peut être vraiment bien. Donc voilà, de fil en aiguille j'ai commencé à proposer les cours de macarons parce que clairement c'était ce que je voyais, il y a une vraie demande pour ça, parce que le macaron c'est quand même la pâtisserie iconique française qui est connue internationalement. Donc ça tu peux dire il y a plein de trucs que tu veux, mais le macaron c'est connu partout dans le monde entier par 90% des gens. Du coup bah je commence à proposer un peu et puis bah après des gens entendent parler de moi et demandent des trucs. Donc je me retrouve après à faire un cours, tu vois, de 3 personnes chez moi. J'ai une demande pour faire 2 cours dans la même journée pour 2 fois 25 personnes dans une cuisine commerciale. Et là, je me dis, oh là là, chaud quand même. J'étais toute seule, j'avais pas le matériel. Je l'ai fait, tu vois, toute seule. Le hasard a fait qu'à ce moment-là, j'avais une copine de France qui était de passage, qui du coup m'a donné un coup de main pour la mise en place et tout, mais pas du tout en mode pâtissière. Donc le cours voilà, c'était vraiment moi, mais du coup voilà, je me retrouve avec 2 fois 25 personnes américaines dans une cuisine que j'avais louée, une cuisine commerciale louée à l'heure, parce que clairement chez moi ça aurait pas été possible. Et puis j'avais pas envie de recevoir 25 personnes chez moi, ça aurait été l'enfer. Et donc bah voilà, je fais 6 cours, ça se passe. Je me rends compte aussi que c'est quand même chaud de gérer 25 personnes toute seule. Je me rends compte aussi des difficultés que c'est de donner un cours, que ce soit sympa, que ce soit fun. Mmh. Mais ça confirme le truc de me dire j'ai envie de rendre la cuisine française un peu plus fun que ce qu'elle est aux États-Unis, parce que elle est quand même un petit peu trop old school par rapport à ce que je connais en France, et la rendre hyper accessible aussi. Voilà, ça c'est mon truc de base. Accessible parce que dans la tête des Américains, la cuisine française, c'est hyper compliqué. Ouais. Il faut beaucoup de matériel, il faut beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'étapes. Alors que oui, il y a des recettes qui sont plus compliquées que d'autres. C'est vrai que le macaron, il nécessite quand même de veiller à certaines étapes. Mais les coques de macaron à faire, c'est rien, c'est 15 minutes, quoi.
Ouais.
c'est, en vrai, je veux dire, c'est rien du tout. Une fois que tu maîtrises un peu, ça va hyper vite. Donc c'est vrai qu'il y a quelques points techniques, mais une fois que tu les connais, une fois qu'on t'a alerté sur le comment macaroner, comment faire ta meringue, dire bon bah voilà c'est bon, t'as pas besoin d'avoir fait bac plus 12 pour savoir faire ça quoi, tu vois. Et voilà, les Américains ont vraiment cette appréhension de la cuisine française. Quand on leur dit cuisine française, c'est compliqué.
D'accord.
Et voilà, moi j'ai eu envie de proposer un truc accessible. À tout le monde, à tous les Américains, et fun, c'est-à-dire sans prise de tête, tout niveau, venez, on va faire des trucs chouettes, on va manger des trucs bons, on va les faire ensemble, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte à la fin que c'est hyper facile. Donc c'est là que j'ai lancé My French Recipe, qui veut dire ma recette française, qui est donc une école de cuisine française basée juste à côté de Dallas, qui propose des cours pour adultes, enfants, dans les entreprises. On propose des cours dans les écoles, on fait des partenariats, enfin voilà, on fait beaucoup de choses. Donc c'est vraiment là que j'ai lancé l'activité. Au début, je tâtonnais un petit peu et du coup, j'ai lancé l'activité des cours en me disant « ouais, c'est bon, il y a vraiment un truc à faire ». Les Américains aiment quand même bien cuisiner, ils aiment bien découvrir d'autres trucs, ils sont assez ouverts à la cuisine française. Il y a juste à leur montrer que c'est fun, quoi, la cuisine française. Et qu'on peut faire des trucs super bons, juste avec quelques ingrédients simples qu'on a tous à la maison.
Ouais.
Voilà, j'ai lancé les cours. Et en parallèle, ça s'est fait vraiment en même temps au tout début. Bon, aujourd'hui, les produits finis n'ont plus rien à voir avec ce que c'était il y a 2 ans. J'ai lancé des baking mix. Donc, des baking mix, c'est une préparation culinaire. Pour gâteau français. Et l'intérêt, c'est que il y a pas à peser, c'est-à-dire que tu peux ajouter un stick de beurre, 3 œufs, parce qu'aux États-Unis, le beurre est vendu 90% du temps en bâton, ce qui est un peu bizarre au début, mais on s'y fait. Et du coup, voilà, donc tu as juste à ajouter ton stick de beurre ou tes œufs, quelque chose de hyper simple. Parce que pareil, en fait, ok, les gens peuvent venir en cours, mais il y a aussi des gens qui ont envie de faire un fondant au chocolat à la maison, qui n'ont pas envie de suivre une recette compliquée, qui veulent juste prendre leur préparation avec des bons ingrédients à l'intérieur, pas non plus, tu vois, le chocolat bas de gamme, et rajouter voilà, ton stick de beurre, tes 3 œufs, tu mets au four et t'as un super fondant.
Et puis c'est vrai que
t'es pas pris la tête. Ça dure 5 minutes.
Un truc aussi que tu mentionnais quand on discutait en préparant cet épisode, c'est que les Américains, en fait, dans leur cuisine, en fait, ne pèsent pas. Moi, je sais que j'ai dû me battre avec mon mari qui est américain pour avoir une balance dans la cuisine, puisque on ne mesure pas tout en cups et en tablespoon, en fait.
C'est ça. En fait, la base, c'est quand même les cups qui, bon, ça passe, mais c'est déjà pas hyper précis. Donc, si tu fais un gâteau au chocolat, ça passe, mais c'est quand même, c'est un peu juste. Et puis, il y a aussi des Américains, et il y en a beaucoup qui savent pas peser, en fait, qui savent pas servir une balance. Parce que, comme on est dans une génération qui a pas vraiment appris à cuisiner. Je sais, surtout, au Texas, en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens qui mangent, quasiment tout le temps à l'extérieur, parce que c'est très peu cher de manger au fast-food. J'aime bien aussi bien manger de temps en temps, mais qui du coup ont pas du tout pris l'habitude de cuisiner et qui vraiment ne savent pas peser. Donc c'est-à-dire j'ai des mères de famille qui sont déjà venues en cours et qui ne se sont jamais servies d'une balance. Je sais, c'est incroyable. La première fois vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible. Mais en fait si. Et voilà, c'est une culture où on n'a pas, surtout cette génération. Peut-être que la génération suivante va évoluer par rapport à la nourriture, mais la génération qui est à peu près de mon âge, on l'aura plus appris à claquer des trucs du congélateur directement dans le four, acheter des trucs tout faits, quoi. Donc, voilà, du coup, ils ne savent pas peser, mais en même temps, ils arrivent à une époque, un stade de leur vie où ils se disent « Ah, c'est quand même cool la nourriture et tout, peut-être que je vais tester des nouveaux trucs. » Mais tu ne peux pas passer de « je pèse rien » ou « je n'ai jamais cuisiné de ma vie » Ah, je vais te faire un gâteau from scratch, de A à Z, tout seul. C'est pas vrai. Il y a une étape entre les deux, et je trouve que le baking mix, il correspond bien à ça, c'est-à-dire que tu fais un truc de toi-même, mais sans non plus trop te prendre la tête.
Du coup, là, alors, My French Recipe, ça ressemble à quoi maintenant? Donc, tu as lancé, du coup, la boîte, il y a quoi, il y a 2 ans?
Ouais, j'ai commencé il y a 2 ans, ouais.
D'accord. Et alors, donc, est-ce que c'est toujours toi? Tu loues toujours une cuisine commune? Ou enfin, comment ça se passe? T'en es où, là, aujourd'hui?
Écoute, on a bien évolué depuis. Donc, j'ai commencé, j'étais toute seule. Je faisais les cours toute seule. Ouais. Les baking mix, je les faisais à la main. Je pesais, je mettais dans les sachets, etc. Tout ça toute seule. Et entre-temps, je me suis associée avec deux femmes françaises. Qui du coup m'accompagne pour faire toutes ces tâches-là. On a amélioré le process de production des baking mix. Donc aujourd'hui, on travaille avec des sous-traitants locaux qui font ça pour nous. On a un packaging qui a été refait, qui est beaucoup plus professionnel. Il fallait bien qu'on commence quelque part, mais il faut améliorer les choses. On vient d'ouvrir notre cuisine. Donc on a loué un local il y a 2-3 mois. Donc on a fait des travaux, on a améliorer l'espace.
Donc ça y est, vous êtes chez vous.
Oui, enfin, c'était le truc incontournable si on voulait un peu aller plus gros, quoi. Voilà, ouais. Arrêter de faire des petits cours de temps en temps. Là, aujourd'hui, on veut y aller, quoi. On veut envoyer. J'ai envie d'envoyer du lourd. J'ai envie d'avoir des gens tout le temps dans la cuisine. J'ai envie de proposer des trucs différents. Et ça passait par avoir son local, son identité, ouais. Pour proposer une expérience aux élèves quand ils arrivent. Voilà, t'arrives chez nous. T'as une expérience. C'est pas juste tu viens prendre un cours de cuisine. T'as l'expérience française, moderne, que tu pourrais avoir dans un coin en France. Voilà, c'est ce que je voulais offrir et ça, il fallait qu'on ait notre chez nous. Donc, ça a été hyper compliqué. On est passé par des phases, l'ascenseur émotionnel, tu vois, genre, tout va bien, c'est au top, c'est génial. Le lendemain, bim, mauvaise nouvelle, on doit claquer 5 000 $ de plus. Voilà, ça a été comme ça tout l'été. Et enfin, là, on sort du tunnel. On se dit, ah, trop bien, on va pouvoir bosser en fait, hein, arrêter de gérer juste des problèmes. Mm-hmm. Mais c'est super cool, on est vraiment hyper contente de faire ça.
Ben, c'est génial, félicitations. Merci. Tu nous as parlé qu'à ton arrivée, tu avais déjà donc une petite fille. Ouais. Et si je me souviens bien, puisque nous nous suivons sur Instagram, tu as une autre petite fille qui a presque l'âge de mon petit. Alors, oui. Toute cette aventure donc de se lancer, de scale up ton business tout en ayant un bébé, comment est-ce qu'on gère l'entrepreneuriat et le fait d'être maman aussi
Eh bien, écoute, je vais pas te mentir, c'était chaud. De toute façon, tu le sais, hein, voilà, déjà bosser quand t'as des enfants, c'est dur. Hein. Okay. Après... je me suis toujours dit que ça ne m'empêcherait pas de faire les choses. Ouais. Sauf, voilà, si j'avais été en mauvaise santé, si j'avais eu besoin de m'arrêter avant, etc. Mais je me suis toujours dit que le fait ni d'être enceinte, ni d'avoir un bébé devait m'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, j'ai bossé vraiment... ma fille est née en février, début février. Je pense que j'ai dû bosser, donner des cours jusque janvier, quoi.
Donc, après, à l'Amérique. Jusqu'au dernier moment.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu à l'américaine aussi, hein. C'est-à-dire que si tu bosses pas, bah, t'es pas payé, hein. Donc, ouais, t'y vas, quoi. Et puis, de toute façon, j'avais pas envie d'arrêter, quoi. Enfin, voilà, j'étais en bonne santé, j'avais aucune raison d'arrêter. Et ouais, c'est dur parce que, tu dors moins, tu peux être plus à fleur de peau parce que, tu dors moins aussi. Après, j'ai la chance d'avoir un mari qui fait sa part du job aussi. C'est-à-dire que quand les filles sont malades, on partage. C'est pas moi qui dois aller chercher les filles forcément. C'est-à-dire que s'il est dispo, il se rend dispo. Donc on essaie vraiment de faire 50-50. Et là-dessus, c'est top parce que il joue le jeu. Et c'est clairement indispensable. Pour que moi aussi je puisse m'épanouir dans mon boulot, c'est-à-dire que lui il adore son job, moi aussi j'ai envie de m'épanouir dans mon boulot, mais pour ça il faut qu'on soit au même niveau en termes d'investissement familial. Et sans ça j'aurais pas pu le faire. Après c'était implicite, si tu veux, c'était sûr que ça allait se passer comme ça, parce que de toute façon, enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait son job de papa, et puis bah, quand il y a des moments, il s'oublie, voilà, bah, je le rappelle, là je pense que je prends un peu trop le relais, c'est à ton tour d'y aller. Voilà, je laisse pas non plus, mon instinct maternel me dicter trop de trucs. C'est important parce que quand t'es maman, tu le sais aussi, t'as tendance à vouloir prendre sur toi. Tu vas dire non, je m'en occupe. Ouais. Je vais le faire. Parce que t'es la maman et que, ouais, tu sais mieux le faire. C'est vrai. Tu sais mieux faire que ton mari. C'est sûr. Parce que, enfin, souvent, c'est le cas. Parce que, bah, c'est toi qui l'as porté. Tu connais donc mieux physiquement ton enfant. Moi, j'ai décidé de pas faire ça, de pas dire non, mais reste au boulot, chérie, je vais y aller. Bah, non. En fait, moi aussi, j'ai des trucs à faire. C'est une discipline qu'il faut s'imposer. Parce que encore une fois, c'est pas naturel, surtout quand on est une femme. Mmh. Quand on est une femme, on a ça, je pense, instinctivement. Et en plus, la société fait que on est poussé vers ça. C'est-à-dire qu'au début, la crèche, quand une des filles est malade, c'était toujours moi qui appelais. Parce que bah, t'es la maman, ils attendent que. Voilà. Je pense que c'est toi qui vas venir. C'est là, bah, en fait, je suis pas dispo, appelez mon mari. Tu vois, c'est pas évident parce que. Toi-même, tu dis des fois, t'as un peu mal au cœur. Tu dis, ah, mais mon petit bébé. Mais oui, mais en fait, est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce serait mieux si c'était moi? Bah non. Est-ce que c'est pas mieux? C'est juste, bah, c'est différent. Mais moi, j'ai besoin aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important, je ne peux pas. Donc voilà. Donc c'est pas évident. J'ai accepté de laisser la place à mon mari. Mm-hmm. J'ai accepté de pas être une maman parfaite. C'est-à-dire que, bah ouais, des fois, j'ai pas envie. Voilà.
La définition de maman parfaite, il y en a 110. Hein.
Tout à fait, mais la maman parfaite où tu vas te dire, tu vas être au taquet sur faire des activités avec tes enfants dès qu'ils rentrent le soir, ou moi j'aime bien faire des trucs avec mes filles, mais des fois j'ai pas envie, ou des fois je peux pas, et puis c'est pas grave, quoi. Voilà, je le vis très bien. Encore une fois, je pense que c'est pas toujours évident quand on est une femme, parce qu'on attend d'avoir une maman, peut-être maman poule, on attend de nous qu'on soit une maman poule. Et je pense qu'en fait,
la société, ouais.
Ouais,
et,
voilà.
Et la société américaine, aussi moderne qu'elle soit, est très, est un peu rétrograde quand même sur tous ces aspects-là.
Absolument.
Le coût de la vie, étant ce qu'il est, il y a énormément de femmes en début, milieu de carrière, en fait, qui arrêtent tout pour
rester à
la maison des enfants, souvent pour l'aspect financier, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça encourage pas, et ça veut pas dire qu'il faut retourner au travail ou qu'il faut pas, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est vrai que bon, c'est. Bref.
C'est un point super important que tu soulèves. C'est vrai que, en plus, les journées finissent plus tôt. Donc, les enfants ici, ils sortent de l'école à, je sais pas, 14h30, 15h. Ouais. Si t'as un job à 14h30, 15h, ta journée, elle est pas finie. Et clairement, bah, tout le monde attend que la femme prenne en charge le temps où les enfants sont tout seuls, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Soit la maman, elle va arrêter de bosser, soit elle va prendre un job à mi-temps. Mmh. Et clairement, bah, voilà, c'est elle qui va mettre sa carrière en pause, quoi.
Ouais, non, ça fait réfléchir. C'est un pays si moderne par tant d'aspects, mais c'est vrai que tout l'aspect de la maternité, moi, que j'ai découvert, du coup, au cours de la dernière année, je le trouve assez dramatique.
Ouais, alors, en même temps, il y a des trucs qui sont vachement modernes et par rapport à l'éducation des enfants, etc. Mais c'est vrai que, je pense que t'as bien résumé le truc. Il y a un aspect financier qui est super important. Bah, ici, t'as pas de crèche publique, donc t'as tes enfants à la crèche, bah, bim, quoi, c'est un salaire, quoi, pour un enfant. Donc, si t'as pas de revenus importants par ailleurs, bah, c'est vrai que, tu penses que c'est plus logique que tu restes à la maison et que t'occupes de tes enfants.
C'est ça.
Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Puis surtout que donc pour boucler justement sur l'expatriation, c'est que t'as pas ton enfin, en tout cas moi personnellement, je sais pas toi si t'as peut-être réussi à recréer ton réseau sur place, mais le réseau de soutien, quoi. On n'a pas la famille, on peut pas appeler les grands-parents pour aller filer un coup de main, ne serait-ce que pour une soirée, et donc encore moins pour un week-end.
Jamais.
Je pense que c'est un problème auxquels tous les expats se confrontent et qui rend, c'est pas évident tous les jours.
Enfin, ouais. Bah, déjà, être parent, c'est pas évident, mais en plus, c'est vrai quand t'es isolé, c'est chaud parce que t'as pas, tes enfants sont malades, bah, c'est pour toi, le week-end, t'as pas un break, c'est forcément la babysitter. Tu veux sortir, donc tu tapes le prix de la babysitter, le prix de ta soirée, le prix de ton parking. En fait, est-ce qu'on a vraiment passé une super soirée? Est-ce que ça valait le coup? Là, je suis pas sûre. Tu commences à te dire, ça vaut pas le coup de sortir. Et puis là, c'est le fin de ta vie. Et la fin de ta vie, tu restes chez toi, tu fais plus rien.
C'est hyper déprimant ce que tu dis.
Non, je plaisante. Pas du tout. En plus, ça n'est pas du tout comme ça.
Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir au coût des investissements. Bon, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? À part une super babysitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Écoute, honnêtement, je trouve que j'ai pas besoin de plus. J'ai juste envie que ça continue sur cette lancée. J'ai envie de continuer à m'éclater dans ce que je fais. En 2020, j'ai envie d'envoyer du lourd. J'ai envie de passer... vraiment la seconde étape de ok, j'ai monté une boîte qui se porte, ça va, c'est cool, j'ai envie de me dire ok, j'ai fait un truc entre guillemets de mec, tu vois, envoyer, faire une boîte genre qui envoie du lourd, quoi. Voilà, genre ouais, ok, moi aussi je peux faire un truc qu'un mec peut faire. Voilà, après le reste, honnêtement, que tout continue à
bien rouler.
Ouais, ça, la vie est cool, tout va bien, tu vois, j'ai aucune raison de me plaindre, quoi.
C'est génial, c'est super génial. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un ou une future expat qui, alors tu disais qu'au début ton anglais était particulièrement approximatif par exemple, qui donc pense, je sais pas, à une reconversion, à monter une boîte dans un domaine dans lequel il ne s'est pas formé, hein, parce que ce que tu disais, t'as pas été, en tout cas diplômé, ça veut pas dire que t'es pas formé, dans ton industrie actuelle. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou même juste quelqu'un qui cherche à monter une boîte donc dans le pays de son expatriation?
Plein de conseils, mais je dirais juste que un, il n'y a pas de bon moment pour le faire. Faut arrêter d'attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est quand tu veux le faire, et si tu sens que tu l'as en toi, bah faut y aller. Ouais, vraiment, c'est ça. Et puis la langue n'est jamais une barrière. Clairement, tout le monde est toujours hyper content de nous aider quand on a quand il manque un mot, quand on a une mauvaise prononciation, et peu importe le pays. Donc arrêtez de se dire je vais d'abord apprendre, améliorer mon anglais, etc. Bah l'anglais va s'améliorer parce que t'auras pas le choix, parce que t'y vas, quoi, tu vois. C'est pas en disant je vais faire 2 heures de cours par semaine et puis je vais faire ça pendant 6 mois. Bah non, vas-y, fais ton truc, et là je peux te garantir qu'en 3 mois tu vas parler super bien. Donc le conseil, c'est vas-y maintenant.
Eh ben c'est génial, merci beaucoup. Si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, ou en tout cas suivre tes aventures entrepreneuriales et puis tout simplement d'expatriation, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Je suis sur Instagram. Isa Feuille de Chou, c'est mon Instagram personnel. Okay. My French Recipe pour suivre les aventures de l'école. Twitter, pas trop. Ça va trop vite pour moi, j'ai pas le temps. Et sur Facebook, bien sûr, voilà, Isabelle Mota, ou sur Feuille de Chou, My French Recipe, voilà.
Super.
Et sur LinkedIn, bien sûr.
Dernière question, une question qu'on aime bien poser à tous nos invités, c'est est-ce que tu pourrais nous faire visiter en 3 lieux le Texas d'Isabelle?
Alors, il y a plusieurs choses surprenantes, on va dire. Donc, on va commencer par le truc très Texas. Dans les clichés, c'est premièrement, il faut aller voir un rodéo. C'est vrai, ça existe. Il y a des rodéos au Texas. J'en ai fait une fois. Je pense que j'irai plus parce que c'est quand même un peu violent en termes de, voilà, ils attrapent les animaux et tout. Mais il faut le voir parce que c'est un truc de, enfin, c'est vraiment différent. C'est les films, t'as les mecs avec les chapeaux de cow-boy, et puis c'est pas genre, c'est pas du folklore, quoi. C'est des vrais, c'est leur volonté de chercher de choper des animaux, quoi. Donc ils sont là, ils sont sur des chevaux complètement fous, ils essaient de choper des bébés vaches. Donc c'est un peu violent, faut être honnête. C'est pas ma tasse de thé en soi, mais le spectacle c'est assez impressionnant. Il y a ce côté américain avec l'hymne au début, tu vois, qui est hyper qui te prend le cœur, tu vois, ouais, c'est beau, les gens sont... Non, mais il y a un vrai truc, tu vois. Moi, j'aime bien voir les gens qui sont tous ensemble, ça fait du bien. Tu vois, c'est des rodéos hyper texans, et en même temps, tu y vas, c'est des spectacles où il y a des enfants, des petits, des grands, tous les âges, de toutes les nationalités, c'est-à-dire que t'as pas que des Américains ou des Texans profonds. Ouais. Tu vas, tu vois des gens de toutes les couleurs, de toutes origines, en famille, qui viennent voir ça, c'est cool, ça fait... C'est... J'aime bien ça. Bah, c'est le premier truc à faire. Si t'es au Texas et si t'es du côté de Dallas, faut aller voir un rodéo à Fort Worth. Deuxième truc à faire, si c'est plus du côté de Houston, j'aime bien Houston parce que t'es proche de la mer. Donc, il faut aller sur Galveston, qui est une petite plage très sympa. C'est cool, la mer est chaude. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Je conseille, je recommande.
T'es dans le golf là.
Ouais, hein, tout à fait. C'est vraiment chouette. Et enfin, pareil du côté de Houston, vraiment top en famille. Bah, la NASA, c'est juste canon. On voit des fusées qui sont allées dans l'espace. Enfin, c'est incroyable. Franchement, j'ai une expérience et un souvenir fou quoi. Tu dis, il y a quand même des fusées qui sont allées sur la Lune. et que tu les vois dans le hangar qui font, mais je sais pas, 100 mètres de long, tu regardes le truc. Puis ce qui est impressionnant, c'est de te dire que c'est le site, ça se visite, mais c'est aussi le site où les mecs viennent vraiment bosser, quoi, les cosmonautes. Donc c'est ça qui est aussi vachement impressionnant. Je recommande, ouais, vraiment.
Mais écoute, c'est génial. Un immense merci à toi.
C'était un plaisir, merci à toi.
Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée, puis je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Et alors, la bonne nouvelle avant de nous dire au revoir, c'est que Isabelle a décidé de faire une offre spéciale pour les auditeurs de French Expat, le podcast. Donc si les mélanges pour gâteaux vous intéressent et que vous voulez vous en acheter, bah, direction donc son site, myfrenchrecipe.com. Vous allez dans la sélection des baking mix, donc des mélanges pour gâteaux et pâtisseries. Et en entrant le code FELP, qui sont les initiales de French Expat, le podcast, vous allez obtenir 10% de réduction. On vous remettra le lien et le code dans les notes du podcast, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de quoi noter. Et puis bah voilà, c'est tout. Bon appétit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En voilà une sacrée histoire. J'espère que vous avez apprécié la balade au pays des cow-boys et de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette histoire et cette conversation avec Isabelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. En attendant, si vous souhaitez nous encourager et nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne que ça pourrait intéresser. Un futur expat, un passionné de cuisine, une passionnée de cuisine, un entrepreneur ou une entrepreneur en devenir. En tout cas, nous, ça nous aide énormément de pouvoir partager et de rencontrer de nouveaux auditeurs. Rendez-vous aussi sur Apple Podcast ou sur l'application de podcast que vous utilisez régulièrement pour nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles si vous le pouvez. Enfin, n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit tour dans les coulisses de French Expat, le podcast, direction notre compte Instagram, mais également sur Facebook, sur French Expat, le podcast, tout attaché. C'est tout pour aujourd'hui, je vous invite à retrouver Laetitia dans le prochain épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.